des chefs.
Ça, le délai qui est artificiel, est-ce que c'est pas le gouvernement qui va prendre les tournevis en otage?
Ça pourrait être une analyse qui est faite de votre part. Cependant, ce qui nous empêche d'inspecter ces structures-là en ce moment, c'est le moyen de pression qui est choisi par le syndicat.
On peut penser à une loi spéciale d'ici la fin de la session.
Et moi, je suis en mode négociation. Est-ce que c'est normal qu'on négocie depuis novembre 2014? Alors, à un moment donné, il faut y avoir une finalité.
Les chefs Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Il faut y avoir une finalité.
OK, ça, les deux personnes que vous venez d'entendre, là, c'était le ministre des Transports, André Fortin, puis après ça, le président du Conseil du Trésor, Pierre Arcan. Là, c'est au sujet du conflit avec les ingénieurs du gouvernement. Là, ils ont obtenu ils n'ont pas obtenu une bonne décision en ce qui me concerne, mais ils ont obtenu une décision favorable à leur cause, si bien qu'ils ne seront pas obligés, pour le moment en tout cas, de faire les inspections des viaducs, notamment de soir. Ils vont pouvoir les faire de jour. Fait qu'imaginez-vous ce que ça va causer comme congestion. Pour en discuter, Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour.
Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine d'actualité. Bonjour Alec.
Bonjour.
Antoine, parlons-en donc de ce bras de fer avec les ingénieurs.
Oui, puis des bouchons à venir, parce que, comme tu l'as bien dit, là, le gouvernement avait demandé au tribunal administratif du travail, début novembre, de forcer l'association des ingénieurs de faire les inspections de nuit, finalement, parce que c'était un service essentiel.
Oui.
Mais finalement, comme tu l'as dit aussi, là, le jugement a été défavorable. Puis la juge Myriam Bédard, à ne pas confondre avec l'athlète, a dit, elle, si les travaux litigieux sont nécessaires dans l'urgence qu'elle lègue le gouvernement, on peut se demander pourquoi il a attendu jusqu'au 2 novembre pour adresser sa demande au tribunal. Puis on a reposé la question tout à l'heure. En point de presse, on n'a pas vraiment eu de réponse là-dessus. Hein. On dit vaguement là, qu'il y a des choses qui se sont faites cet été, puis que nous, on attendait, puis on se fiait à la bonne foi, tout ça. Mais là, on a l'impression que le gouvernement vraiment en a marre. Là, il y a Pierre Arcan, le président du Conseil du Trésor, qui a bien expliqué que les négos durent depuis 3 ans, qu'il y a eu une soixantaine de rencontres, que les ingénieurs demandent une augmentation de 19% et qu'ils ne veulent pas faire de compromis. Et comme l'a souligné plusieurs fois M. Arcan, ben, dans une négociation, il faut qu'il y ait des compromis de tous les côtés. Or, il y a une partie, selon lui, qui ne veut pas faire de compromis. Et il y a une offre finale qui avait été déposée le 14 juin. Mm-hmm. Donc là, évidemment, quand un ministre dit ça, là, la question qui vient tout de suite, c'est ça sent la loi spéciale,
c'est
M. le ministre.
C'est clair.
Or, M. Arcan a dit bon, que sa patience était presque à bout. Mais qu'il voulait maintenir le dialogue. Demain, d'ailleurs, il va y avoir une rencontre. Il y a une rencontre qui est prévue avec l'équipe de négociation du gouvernement et le syndicat des ingénieurs. Alors, là, il a invité les ingénieurs à faire preuve d'ouverture. On verra ce que ça va donner. Mais c'est sûr qu'on a l'impression que le gouvernement est tanné, qu'ils veulent vraiment qu'il arrive quelque chose de douloureux. Là. Dans le fond, ils veulent saisir l'occasion de ces bouchons-là pour dire « Voyez ce que ça fait, cette grève-là. »
Tu veux dire, ils veulent saisir...
Ils veulent faire porter l'odieux aux ingénieurs.
D'une loi spéciale.
Oui. Et ça, c'est de bonne guerre. Ça arrive dans toutes les négociations.
Ça s'appelle une game politique, ça.
Oui, voilà.
OK. Ben là, ça, donc, tu es en train de nous dire, préparez-vous, là, il y a comme une dernière tentative d'en venir à une entente négociée, mais après ça, on va parler de loi spéciale. Parce que moi, je vais te dire franchement, les automobilistes, là... Ils n'ont aucune patience. Déjà, on est d'un bouchon mur à mur. Si en plus, on leur dit, tu vas attendre, au lieu d'attendre 1 heure ou 1 heure et demie, tu vas attendre 2 heures parce qu'il va y avoir des travaux en plein jour. Ben c'est viaduc de la 15 puis les autres autoroutes de la région de Montréal. Le monde va capoter, là.
Ben oui, puis on a demandé au ministre Fortin, le ministre des Transports, s'il y avait vraiment un danger. C'est parce qu'il n'arrêtait pas de dire c'est une question de sécurité. Nous, on ne transigera pas avec la sécurité de la population. On va tout faire pour pas. Puis là, à un moment donné, il dit coudonc, ces structures-là sont sécuritaires. Il a dit oui, les structures sont sécuritaires en ce moment, donc on ne veut pas alarmer la population en leur disant qu'aujourd'hui, la structure n'est pas sécuritaire. Bon. Mais en même temps, ils ne peuvent pas attendre, là.
Mais non, puis ils peuvent te dire qu'ils ne sont pas sécuritaires.
Les t'sais? Inspections se fassent, tu sais.
Bon,
on
d'accord.
Alors, tu vois, c'est, on est dans l'espèce de joute politique.
Bien oui, on est là-dedans, c'est bien clair. Puis malheureusement, c'est les automobilistes qui risquent d'être pris en otage dans cette négociation-là.
Mais tu sais, les ingénieurs, quand on les écoute, ils ont des bons arguments aussi.
Oui, oui.
Ça prend plus d'expertise, il faut payer cette expertise-là, on le sait. On s'est fait avoir là, dans le temps, quand on s'est mis à finalement sous-traiter tous les travaux d'ingénierie. Il y a eu des extras épouvantables, la surveillance de chantier complaisante. Donc, c'est sûr, là. Mais est-ce que ça vaut 19 % au fond? Je pense que...
Ben, est-ce que ça vaut 19 % puis est-ce que ça vaut faire... Tu sais, finissez le mot, là.
Emmerder, c'est... peut-être? Non.
Ah, emmerder, oui. Non, emmerder. Non, moi, je suis correct. Emmerder, je pense.
Emmerder,
est-ce
correct?
Que ça vaut...
Oui.
Ben, je pense que oui. Est-ce que ça vaut la peine d'emmerder les automobilistes qui sont déjà passablement emmerdés? Je sais pas. Ah, d'accord.
Puis c'est tombé le jour même où la Cour supérieure a autorisé dans un autre dossier là, la demande d'action collective pour un autre cafouillage.
Ben oui.
Pour un vrai cafouillage, cette fois-là, survenu lors de la tempête de neige des 14 et 15 mars dernier. Tu te souviens, les ministres Lessard et Coiteux dormaient au gaz?
On a fait point là-dessus en première heure, mon cher Antoine, avec l'avocat responsable. Oui, absolument.
C'est tombé la même journée, c'est ça qui est drôle.
Je sais. Puis là, écoute, on parlait de quelques centaines là, qui allaient se joindre au recours, mais là, on est rendu au-dessus de 1000, puis c'est des gros montants. Ça va coûter entre 4
2500 et 2500 par personne. Hein?
Oui, au moins 2500.
Au moins 2500. Tantôt dans le couloir, M. Fortin, le ministre des Transports, je ne sais pas si on a le temps, mais il a dit que ça ne se reproduirait plus. Puis on a pris des mesures.
Ah, ça, je vais entendre ça. Ah oui, ça, je pense que.
Je vais te dire, les mesures sont intéressantes. Tu sais, le ministre Fortin, là, il a l'air d'être au boulot. Là. Tu sais, il a l'air d'être éveillé aussi, contrairement à d'autres ministres des Transports dans le passé. On peut l'écouter.
Oui. Place pour la saison hivernale de cette année pour s'assurer qu'une situation comme ça ne se reproduise pas. On demande aux entrepreneurs, on exige des entrepreneurs qu'ils aient des GPS inclus dans leur véhicule pour qu'on sache quand ils sont passés sur les routes. Quel était le déneigement qu'ils ont effectué? Combien de sel a été mis sur les routes, etc.? Donc, c'est des nouvelles mesures qui sont mises en place. On ajoute des équipes d'appoint, donc des équipes qui sont là en recours supplémentaire, en backup, si on peut utiliser du mauvais français, aux équipes habituelles du ministère et des entrepreneurs privés. Donc, il y a des mesures supplémentaires qui sont mises en place. J'ai moi-même visité le centre 24/7 à Montréal et à Québec.
OK. Ben, ça s'appelle mettre sa tête sur le bio, là, hein? Parce que là, il est en train de nous dire, là, moi, je prends une mesure pour éviter que ça se reproduise. Fait que, il y a intérêt à ce que ça se reproduise pas.
Mettons... Les GPS d'un camion, des quantités de sel.
Écoute.
On croise les doigts.
Ben oui, voilà, oui, c'est ça, surtout que ça s'en vient. OK, on va aller faire un tour à Ottawa, Alec, parce que là, il y a une décision qui doit être annoncée. C'est la fameuse mission des casques bleus canadiens, que ça fait quoi, 2 ans qu'on attend?
On l'a annoncé en septembre 2016, donc ça fait quand même un petit peu plus d'un an là, qu'on a annoncé qu'il y aurait un déploiement important. Souviens-toi, c'est Stéphane Dion qui n'est plus là maintenant, et d'autres ministres qui avaient fait l'annonce, 600 soldats, 150 policiers. On se réinvestissait du côté canadien dans les missions de casque bleu. On en est le pays fondateur, après tout, avec Lester B. Pearson,
mais
on n'est plus un très grand pays contributeur aux missions de maintien de la paix. Or, on reçoit le monde contributeur, si je puis dire. Les 80 pays engagés dans les missions de maintien de la paix sont à Vancouver à partir d'aujourd'hui. Pour quelques jours, pour le grand sommet annuel sur les opérations de maintien de la paix. On l'organise parce qu'on devait avoir, depuis longtemps, annoncé où allaient être déployés ces soldats-là, mais on ne l'a toujours pas fait.
Ben oui.
Alors là, on reçoit le monde un peu les mains vides. Ça commence à avoir l'air un petit peu gênant.
Ben oui.
Alors là, Justin Trudeau revient aujourd'hui de sa mission en Asie. D'ailleurs, il fait un 24 heures sans dormir parce qu'il est à rebrousse fuseau horaire. Alors, il y a un discours devant des partisans.
C'est joli, ça, rebrousse fuseau horaire.
Non, mais je ne savais pas comment l'appeler.
C'est bien.
C'est très clair.
Alors, il revient et donc ça lui permet de gagner du temps. Et donc ce soir, il fait un discours devant des partisans à Vancouver, soirée de financement. Et ça va avoir fait 24 heures qu'il est debout, d'après mes calculs. Et ensuite, demain, grosse annonce donc à ce fameux sommet sur les casques bleus de la contribution canadienne. On a donc posé la question à Justin Trudeau ce matin dans sa conférence de presse de clôture de son voyage. À quoi ça va ressembler? On peut l'entendre.
Et l'ONU a besoin du Canada d'apporter ses capacités, son expertise pour faire une différence. C'est la réflexion qu'on a depuis plusieurs mois et je sais que tout le monde va être très heureux de voir la solution tout à fait à l'image de nos valeurs et de notre approche que nous allons présenter.
Je trouve qu'il fait monter les attentes un peu, là, non?
Moi, les échos que j'ai, c'est qu'on n'est pas très heureux. À l'ONU, chez les spécialistes, ce qui va être annoncé demain, ça va être une opération de saupoudrage, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans une seule mission quelque part comme c'était prévu. Il y avait eu beaucoup de rumeurs que le Canada se déploierait au Mali, entre autres, notamment,
ben oui.
qui est un des pays qui reçoit le plus d'aide internationale du Canada, où on a une ambassade, ça parle français. Les Français, les Néerlandais voulaient qu'on se déploie là pour aller leur donner un coup de main. Ce sera pas le cas. Je dis opération de saupoudrage parce qu'on va annoncer un paquet de petites mesures. Plutôt que d'avoir une mission concentrée où on a de l'impact, on va annoncer plusieurs mesures différentes. Oui, pour combler certains besoins de l'ONU, mais ça n'aura pas le poids de diriger une mission quelque part. Alors, on va annoncer qu'on met de l'équipement militaire à la disposition de certaines missions de l'ONU en Afrique, des avions de transport de troupes et de matériel, les C-130, des hélicoptères aussi, notamment pour aider l'ONU à déplacer des soldats entre ses missions au Sud-Soudan, en République centrafricaine et en Somalie, entre autres. On va annoncer qu'on va mettre à la disposition de l'ONU des experts pour retirer les engins explosifs improvisés des routes, les fameux IED, comme on a eu énormément en Afghanistan. On a donc développé une expertise là-dedans, comment les équipements doivent être mieux adaptés, comment former les soldats. On va donc mettre des équipes spécialisées à la disposition de l'ONU pour ça. On va former d'autres soldats de nations qui font des missions de casque bleu, parce qu'on sait qu'il y a des niveaux très variables entre les nations qui font ces missions-là. Donc, on va leur donner un coup de main en matière d'entraînement. Donc, vous voyez, on va disperser les forces canadiennes. Là. On va plutôt donner un coup de main dans certains domaines, mais on n'a pas envie de concentrer dans une seule mission toutes les ressources canadiennes.
Comment t'expliques ça?
Ben d'abord, écoute, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense ont fait une recommandation commune le 15 décembre dernier, 15 décembre 2016, à Justin Trudeau. Ça fait donc presque un an qu'il dort sur sa décision. Et la recommandation était, voici, on a trois missions en Afrique où on peut aller. République centrafricaine, on peut aller au Sud-Soudan ou on peut aller au Mali. La recommandation en haut de la feuille, c'était... On devrait aller au Mali, pour les raisons que je t'ai expliquées. C'est un pays qui a des liens importants avec le Canada, qui parle français. On donne un coup de main aux alliés français. On a une ambassade sur le terrain. On a un accord de paix à faire respecter. Bref, c'est plus structuré, le Mali, que la République centrafricaine, par exemple.
Ou le Sud-Soudan.
Qui sont complètement déstructurés comme pays.
Oui.
Mais il y a des hésitations du côté du bureau du premier ministre depuis des mois. Et c'est pas pour rien que ça a aussi attendu. D'abord, c'est une mission qui est quand même relativement périlleuse. Il y a eu plusieurs morts dans les dernières années.
Récemment, il y a eu des Américains qui ont été tués, là.
C'est une des missions de l'ONU la plus... c'est pas exactement la même chose. Les Américains, eux, c'est des missions antiterroristes, mais parmi les missions de l'ONU, c'est la mission qui est la plus meurtrière. Pas chez les Occidentaux, qui sont mieux équipés, mais chez les militaires qui portent des casques bleus, qui viennent de pays souvent africains, le Tchad, entre autres, qui sont moins bien équipés. Mais c'est vrai qu'il y a encore un certain niveau de risque. Et ça coûte surtout très cher. Et quand tu t'engages dans ces missions-là, tu sais pas quand t'en sors. Et le gouvernement Trudeau disait, ben là, ça veut dire qu'on s'apprend 6 mois à déployer des soldats là-bas. On va être comme à un an des élections. Et là, vous allez me dire, chers militaires et diplomates, qu'on a des chances d'avoir des soldats qui reviennent dans des cercueils alors qu'on s'en va en élection pour une mission au Mali qu'on n'est pas certain que les Canadiens vont comprendre pourquoi on est là. Il y avait beaucoup de réticences politiques à envoyer. Alors qu'on a fait une reconnaissance militaire là-bas, les militaires canadiens sont allés, ils ont évalué la situation, ils ont quand même mis le Mali en haut de la liste, mais politiquement, du côté de Justin Trudeau et ses conseillers, on n'était pas certain que ça valait... le coût politique, si je peux dire comme ça, que de déployer des soldats là-bas. Et donc, on a décidé, on a hésité, on a pris notre temps, on a regardé d'autres missions, comme je te disais, le Sud-Soudan, République centrafricaine, pas trop convaincu. Et plutôt que de concentrer nos efforts, on a décidé, on va donner un coup de main en Ukraine, on a des soldats qui forment l'armée ukrainienne là-bas, on va prendre le commandement de l'OTAN en Lettonie. Tout ça a des coûts et tout ça mobilise des soldats et on va diminuer un peu ce qu'on avait promis du côté des casques bleus en faisant un saupoudrage de différents besoins de l'ONU, mais pas en prenant la direction d'une mission comme telle, comme on voulait le faire. Donc, demain, on va emballer ça en disant on répond aux demandes de l'ONU, puis l'ONU qui est là, sur place à Vancouver, va pas faire de grimaces en disant qu'ils se font fournir des hélicoptères, puis de l'avion, puis des troupes spécialisées pour les mines, puis les engins explosifs. Mais moi, pour avoir parlé, parce que je suis seul à Défense depuis longtemps, pour avoir parlé à des gens de l'ONU, c'est pas ce qu'on attendait. On aurait aimé que le Canada et sa réputation, le symbole canadien de réinvestissement dans les casques bleus, prennent la tête d'une grande mission en Afrique. Et à moins d'un revirement de situation, parce qu'on négocie encore certains détails, me dit-on, c'est pas vers ça qu'on s'en va demain matin.
Eh hey boy, c'est quelque
chose... Mais je te tiendrai au courant, on l'annonce demain en avant-midi.
Je te tiendrai
au courant des détails, mais tout ce que je te dis là, ça semble aller dans ce sens-là.
Ben, en tout cas, c'est ici que vous l'aurez entendu en premier, chers auditeurs. On va s'arrêter parce qu'au retour, on a encore quand même quelques sujets à couvrir. Restez avec nous, là. On continue avec la politique canadienne et québécoise. Alec, parle-nous un petit peu de cette sortie de Scheer, Andrew Scheer, le chef conservateur. Qui dit étonné, que c'est quoi, lui, il veut revenir à des nominations partisanes au Sénat. Déjà que le Sénat n'est pas super populaire, pourquoi non. Il veut revenir à ça?
Écoute, je me pose la même question depuis ce matin quand j'ai lu l'entrevue qu'il a accordée à Joël-Denis Bellavance de La Presse, où il dit que lui, s'il est élu en 2019, terminer les sénateurs indépendants, il va renommer des sénateurs conservateurs donc au Sénat. Donc, qui est un retour à la politique qu'on avait avant que Justin Trudeau ajuste là, ces nominations-là.
Mais juste pour les gens qui nous écoutent, justement, là, en quoi ça serait un retour en arrière? Là? Qu'est-ce que c'est maintenant? Là?
Justin Trudeau a créé un comité qui étudie des candidatures au Sénat non partisanes. Donc, ils font des recommandations sur le fait de l'expertise du sénateur, sur le fait que c'est un grand Canadien qui doit participer à la réflexion sur les projets de loi.
Ça, c'est Trudeau qui a commencé ça.
Exactement. Il y en a quand même nommé 28 depuis...
qui ne sont pas considérés comme des sénateurs libéraux. Là.
Non, ils ne siègent pas au caucus libéral, ils sont indépendants.
Mais il n'y a aucun sénateur qui siège au
non,
caucus libéral.
Non, ceux qui étaient déjà nommés avant que lui arrive, le chef libéral, il les a mis à la porte.
Exact.
Donc, il y en a qui se considèrent des libéraux indépendants, il y en a une quinzaine, et il y a 28 vrais sénateurs indépendants qui ne doivent rien à Trudeau puisqu'ils ont été élus par ce comité-là. C'est lui qui nomme, il n'a pas changé le processus constitutionnel, mais la manière de nommer fait en sorte qu'on a eu toutes sortes de nominations qui étaient effectivement pas liées. Ce n'est pas des organisateurs libéraux, ce n'est pas des anciens collecteurs de fonds, ce n'est pas des anciens attachés de presse ou directeurs des coms comme on avait dans le passé.
Hein? Il y en a nommé 28 vrais indépendants depuis qu'il est là.
Exactement, sur les 105 sénateurs en tout. C'est quand même beaucoup.
Ben
il y en a 11 sièges vacants, il va en nommer 11 autres. Et donc, il va y avoir une majorité là, de sièges, là, clairement, aux mains des indépendants au Sénat. Et là,
pourquoi Scheer veut revenir à ça? Faire de la politique?
Il dit que lui, il trouve que c'est un mirage, puis que dans le fond, de toute façon, les sénateurs que Justin Trudeau a nommés votent du côté du gouvernement. Donc, il dit tant qu'à avoir des faux sénateurs indépendants, autant nommer des sénateurs qui appartiennent à un caucus, et on sait où sont leurs lignes partisanes. Mais le problème, c'est que c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que oui, ils votent très majoritairement du côté du gouvernement, mais ils modifient beaucoup plus de projets de loi depuis qu'ils sont indépendants.
Moi, je veux dire, le nombre de personnes au gouvernement fédéral qui me disent tel projet est au Sénat ou tel autre projet s'en va au Sénat.
On peut pas te garantir.
Qui me disent c'est pas évident, on sait pas quand est-ce qu'il va sortir.
Je vais te donner des chiffres concrets. On aime les chiffres, toi et moi. Là. Avant que Justin Trudeau se mette depuis 2 ans à nommer des sénateurs indépendants, 7% des projets de loi qui atterrissaient au Sénat étaient modifiés et donc renvoyés à la Chambre des communes parce qu'évidemment les deux chambres doivent s'entendre. Et là, on négociait puis finalement ça passait au Sénat. 7%, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que 93% des projets de loi étaient adoptés sans modification par le Sénat. Depuis qu'on a davantage de sénateurs indépendants, c'est 25% qui sont renvoyés à la Chambre des communes avec des modifications. Donc, les sénateurs indépendants font leur travail, trouvent des brèches ou demandent des précisions. Ça retourne à la Chambre des communes qui refait son travail et là, on le renvoie au Sénat. Ça veut tout de même dire que dans un quart des projets de loi, il y avait des problèmes à régler. Et donc, ils font leur travail. Là où Scheer, je pense qu'il a tort, c'est quand il dit ben, ils votent de toute façon du côté du gouvernement. C'est sûr, ils n'ont pas la légitimité pour bloquer tous les projets de loi. Ils ne sont pas élus.
J'irais plus loin que ça, moi, Alec. Ils n'ont pas la légitimité même pour faire ce qu'ils font. Parce que c'est basé sur quoi, là, leur légitimité de corriger? Tu dis qu'il y avait des problèmes dans les projets de loi, mais est-ce que c'est...
Ben, le gouvernement les accepte. Donc, j'imagine qu'ils sont d'accord avec ce que le Sénat a dit. Puisque tu n'es pas obligé, lorsque ça revient, ils peuvent faire du...
Mais quelle sorte de problème? C'est-tu des problèmes de virgule ou c'est des problèmes de fond?
Ben moi, je veux dire...
Moi, je pense qu'ils ont fait reculer le gouvernement sur certaines...
Ben, par exemple, quand ils ont voulu modifier la loi sur les banques.
J'allais le
voilà.
dire.
Bon, la loi sur la protection des consommateurs.
Ça, c'est André Pratt, notamment. Là, il a joué son rôle de sénateur indépendant, d'après moi.
Oui, mais avec quelle légitimité? Moi, je reviens là-dessus.
L'institution existe, Antoine, tu as le choix. Là, où tu as fait travailler pour le bien public, pour essayer d'améliorer le projet de loi?
Il faut continuer de questionner cette légitimité-là.
Ouais,
pas parce que tu as été choisi par un comité que tu as le droit d'être législateur, c'est ça mon...
Non, mais là, il y a une délicate danse à y avoir. Et d'ailleurs, les sénateurs, lorsque ça coince entre les deux, c'est-à-dire quand ils renvoient un projet de loi avec une modification et que le gouvernement ne veut rien savoir, là, il se passe généralement un petit bras de fer et à la toute fin, les sénateurs cèdent. C'est ce qui s'est passé lors du projet de loi sur l'aide médicale à mourir, où les sénateurs trouvaient que le projet de loi du gouvernement Trudeau ne respectait pas le jugement de la Cour suprême, n'allait pas assez loin. Et donc, les sénateurs se sont rebuffés et ont retardé l'étude du projet de loi. Et finalement, à la toute fin, les sénateurs, Claude Carignan, André Pratt, ont dit « Bon, on va plier. » On va plier pourquoi? Parce que là, on est dans un projet de loi qui est majeur.
Et on n'a pas la légitimité démocratique pour y aller. Bloquer.
Donc, les 25% dont je te parle, c'est généralement soit des améliorations, des modifications, mais si le gouvernement veut se rebiffer et dit non, il passe comme ça, jusqu'à présent.
Ils ne se sont pas mis dans le chemin.
Ils ne se sont pas mis dans le chemin. Ça peut changer. Là. On est dans une zone d'exploration tout à fait nouvelle où là, on leur donne une certaine légitimité par leur indépendance. Mais Antoine a raison, ils ne sont pas élus, ils ne sont pas redevables. Et donc, il faut à un moment donné que les élus soient responsables de ce qu'ils font.
Il faut se poser la question au Canada. Est-ce qu'on veut que ce soit des élus qui font les lois? Là?
Mais en même temps, est-ce
qu'on
veut...
Parce que là, déjà que tu as la Cour suprême qui quasiment fait les lois, parfois suggère des paragraphes de loi. Là, en plus, t'as des gens non élus qui s'ingèrent dans le processus.
Mais ton point, il est légitime, mais il est le même lorsque t'as des sénateurs partisans qui ont été des collecteurs
Absolument.
De fonds ou des organisateurs.
Absolument, mais on l'a pas réglé le problème.
Payés par des fonds publics, récompensés par le gouvernement place, puis tu dis... Puis ça, ce monde-là, il étudie quand même les projets de loi, mais en plus, c'est que tu te demandes qu'est-ce qu'ils font là.
Mon point, c'est de dire, on dirait qu'on veut contourner le problème fondamental du Sénat, qui est le manque de légitimité.
Son existence ou le fait qu'il soit
non élu.
C'est ça.
Puis heureusement qu'on ne veut pas faire le débat aussi.
T'es là pour le soulever, Antoine, et
je te jure.
Non, c'est un débat super intéressant, tu fais bien de l'amener.
Là où je ne suis pas certain, c'est est-ce que Andrew Scheer devrait, comme il le dit, revenir à des bonnes vieilles nominations partisanes. Pas sûr. Ça n'enlève pas le problème de légitimité dont tu parles. Mais ça fait juste ajouter le problème de nommer des amis du pouvoir. Je suis pas certain que c'est un point
d'être, puis d'être davantage tenu d'obéir à une ligne de parti plutôt que d'obéir à ta propre conscience.
Parce qu'il siège dans le caucus.
Il devrait être tiré au sort.
Il pourrait.
Je te dis. Il y a des politologues sérieux qui proposent ça.
Tirer au sort quoi?
Tirer au sort, c'est-à-dire tirer au sort dans la population.
OK, fait qu'on pourrait être...
Comme un jury, mettons.
Mettons que notre nom pourrait sortir et on pourrait être sénateur. Antoine, on aurait du plaisir.
Ça serait extraordinaire. Peut-être qu'on découvrirait des...
Antoine Robitaille, qui est contre l'existence du Sénat, mais qui est pigé au sort pour le devenir.
Ah ben moi, je te dis, sur le tirage au sort, il y a un livre qui a été écrit encore récemment là-dessus qui est très intéressant. C'est très important en démocratie, notamment pour les jurys. Mais écoute, les sondages, tu sais souvent les sondages, toi, Bernard? C'est du tirage au sort, ça aussi. Donc, on est gouverné indirectement par tirage au sort dans notre sondocratie.
Antoine, on s'éloigne. On s'éloigne. Et là, justement, je veux pas que tu te taises. Je veux que tu nous résumes la déception du ministre Blais sur le revenu minimum garanti. Et s'il te plaît, tu as seulement 2 minutes.
Hey, tu sais que c'est le grand expert, lui, François Blais. Hein? D'ailleurs, dans le rapport...
Ça me rassure pas.
Qui a été déposé. C'est un gros rapport qui a été déposé sur le revenu minimum garanti. Il est cité à peu près à 15 reprises. D'ailleurs, je veux souligner le fait qu'il a écrit un texte sur le revenu minimum garanti, effet redistributif d'un régime d'allocation universelle avec Jean-Yves Duclos.
Le ministre actuel de la famille.
Donc oui, c'est ça.
Ben, on est vraiment content, mais Antoine, vas-y donc maintenant.
Je vais vite à la déception. On va même l'écouter.
Non, il y a des éléments très utiles, intéressants, des mises à jour, des informations importantes. Ma déception, c'est sur la trame de fond. On dit que c'est une utopie, point d'interrogation. En même temps, c'est très inspirant. Et c'est difficile à suivre pour le lecteur de dire, est-ce que c'est positif ou pas?
Autrement dit, vous êtes un meilleur expert du revenu minimum garanti que les experts.
Non, parce que je trouve qu'il y a des points très intéressants, mais encore une fois, je trouve que c'est assez difficile de s'y retrouver. On dit, c'est pas possible, c'est inaccessible. En même temps, on dit, ça existe déjà au Québec.
Ça a coûté combien, si ça vous laisse, ce rapport-là?
J'ai pas les sommes exactes, là.
J'ai rarement vu ça, moi, un ministre qui reçoit un rapport et qui dit « Ah, c'est confus, c'est difficile à suivre, c'est plein de contradictions. »
Mais il dit la vérité.
Oui.
Je suis pas capable de te dire, mais c'est quoi le message central de ce rapport-là?
Ah non, je te dis, il est vraiment compliqué, ce rapport-là. Moi-même, hier, j'étais bien embêté quand j'ai essayé de te le résumer. Mais on peut dire qu'en tout cas, qu'il propose d'augmenter les prestations d'aide sociale de 472 par an pour une personne seule et 311 par an pour un couple sans enfant.
C'est ça.
Mais je te dis qu'on est loin... On est loin de l'allocation universelle sur laquelle s'est penché François Blais dans ses travaux universitaires.
Ça me fait l'effet d'un révolutionnaire. Ça me fait l'effet d'un comité où ils s'entendaient pas, puis chacun a comme écrit son bout de rapport.
Ah, c'est peut-être ça.
Hein, ça donne un
chameau. Ça t'a pensé à certains de mes travaux de cégep.
Un chameau à 6 pattes.
Ils ont comme pas tranché.
Oui, c'est ça. Puis ils ont pas été capables d'arriver avec une vision unifiée. C'est ma théorie. Elle ne s'appuie sur rien.
Mais sur ton instinct, mon cher.
Mon instinct. Antoine, t'es là pour me sauver. merci, Antoine.
Au revoir.
Au revoir. Alec, merci.
Salut, à demain.
Loïc Tassé dans un instant.